Chapitre 34.
Les maîtres de la lame et presque tous les chasseurs s'occupaient de Duchayu. Après son bref séjour dans le royaume des morts, ou au moins sur son seuil, la femme esprit des Bakataumana était glacée jusqu'à la moelle des os. Les couvertures ne suffisant pas à la réchauffer, Richard avait autorisé les hommes à faire un feu s'ils restaient groupés pour réduire les risques. Pendant que deux chasseurs creusaient un trou dans un carré de terre qu'ils avaient débroussaillé, les autres confectionnaient des gerbes d'herbes très serrées. Après les avoir essorées à main nue, ils en enduisirent quatre d'une poix résineuse, dont ils emportaient toujours quelques pots avec eux, puis les disposèrent en pyramide. Dès que le feu eut pris, ils passèrent les autres gerbes dessus pour les sécher, puis les jetèrent dans les flammes. Plus blême qu'un cadavre, Duchayu était toujours très malade. Mais au moins elle vivait et sa respiration s'améliorait de minute en minute. Ses guerriers lui avaient fait boire une infusion de plantes médicinales et les hommes d'Adobi, aux petits soins pour la miraculer, lui préparaient une bouillie à base de tabac. Selon toute probabilité, la femme esprit se remettrait et resterait encore longtemps dans le monde des vivants. Richard s'émerveillait de penser qu'un être humain pût ressusciter. S'il n'avait pas été témoin de cette scène, il aurait sans doute refusé d'y croire. Cet événement extraordinaire avait bouleversé sa façon de voir le monde, sans parler de ses croyances. À présent, il n'avait plus aucun doute sur ce que ses compagnons lui devaient faire. Les bras croisés, Kara regardait les hommes qui s'occupaient de Duchayu. Kara faisait de même, aussi stupéfaite que son mari et les autres témoins, à l'exception de la mort de Sitt. Pour elle, voir une morte revenir à la vie n'avait rien de stupéfiant. Décidément, ces femmes avaient une façon bien à elles de considérer l'existence. Richard prit le bras de Callan et l'attira doucement vers lui. Tout à l'heure, quand tu parlais des Domini d'Urch, tu as dit « En tout cas, il en est ainsi depuis des millénaires. Faut-il comprendre que quelqu'un a pu jadis traverser la frontière malgré la ligne de défense ?»« C'est un sujet très controversé, et personne n'a de certitude, enfin, à l'extérieur d'Anderit. »
Depuis que Duchayu avait évoqué ce royaume, Richard aurait juré qu'il ne comptait pas parmi les préférés de la mère inquisitrice.
« Que veux-tu dire ?»«
C'est une longue histoire. »
Richard sortit trois morceaux de pain de Tava et en distribua deux à ses compagnes.
« Je t'écoute. » Pour se donner le temps de structurer son exposé, Callan grignota distraitement son Tava. « Le pays actuellement nommé Anderit fut jadis envahi par les Haken. » Les Andériens affirment aujourd'hui que leurs agresseurs utilisèrent les Domini d'Urch pour les vaincre. Les sorciers de la forteresse m'ont raconté une version très différente de ce conflit. Mais c'est normal puisqu'il remonte à des millénaires. Et comme tu le sais, l'histoire change en fonction de celui qui la raconte. Par exemple, l'ordre impérial ne verrait pas le massacre de Renwald de la même façon que nous. « J'aimerais entendre parler du passé d'Anderit, » dit Richard. « Vu par les sorciers de préférence. » « Eh bien allons-y dans ce cas. » Il y a 2 ou peut-être 3 000 ans, les Haken ont surgi du pays sauvage pour envahir Anderit. On suppose qu'ils venaient d'une terre très lointaine où ils ne pouvaient plus vivre pour des raisons que nul ne connaît. Parfois, il suffit qu'un fleuve change de cours à cause d'une inondation ou d'un tremblement de terre, ou qu'une sécheresse s'installe et rende les champs improductifs. Quoi qu'il en soit, et selon ce qu'on m'a enseigné, les Haken réussirent à franchir la ligne de Domini d'Urch. Ne me demande pas comment, parce que personne ne le sait. Ils essuyèrent de lourdes pertes, mais ils réussirent à traverser la frontière, puis à conquérir le pays. Les Andériens étaient des nomades, dont les nombreuses tribus passaient leur temps à guerroyer les unes contre les autres. Ils ignoraient l'écriture, la métallurgie et l'architecture, et leur structure sociale se réduisait à un minimum. Bref, comparé aux envahisseurs, il s'agissait d'un peuple primitif. N'en déduis pas qu'il manquait d'intelligence, mais les Haken étaient beaucoup plus développés qu'eux sur presque tous les plans. Leurs armes aussi se révélèrent supérieures. Par exemple, ils avaient une cavalerie et faisaient montre d'une bien meilleure compréhension des impératifs stratégiques. Quant à leur hiérarchie, elle était clairement déterminée, alors que les Andériens se disputaient pour savoir qui commanderait leurs forces. C'est en partie pour ça que les Haken, quand ils eurent franchi la ligne de défense, écrasèrent sans peine leurs adversaires.
« Un peuple guerrier et conquérant, » dit Richard en tendant une outre à Callan. Des prédateurs, en quelque sorte. »
L'inquisitrice but, puis essuya l'eau qui avait dégouliné sur son menton. « Non, Les Haken n'agissaient pas pour s'approprier un butin et réduire les vainqueurs en esclavage. Ils n'étaient pas des rapaces. Ils ont apporté avec eux des trésors de connaissances techniques et scientifiques. Pour l'époque, ils étaient hautement cultivés, avec une compréhension très avancée des mathématiques qu'ils utilisaient dans des domaines pratiques comme l'architecture. L'agriculture était leur point fort, et ils faisaient déjà tirer leurs charrues par des bœufs ou des chevaux, alors que les Andériens, des chasseurs, complétaient leur alimentation en recourant à la cueillette ou au mieux à ce qu'on pourrait appeler du jardinage. Les Haken ont mis en place un système d'irrigation et introduit le riz dans leur nouvelle patrie. Pour tirer parti du climat et de la nature du sol, ils savaient sélectionner les meilleures sortes de céréales, par exemple le blé, et rationaliser la production. Experts en croisement et en élevage de races de chevaux, ils appliquaient ces techniques au bétail.
Callan rendit l'outre à Richard et mangea encore un peu de tabac.
Comme c'est souvent le cas après une conquête, les Haken régnèrent en vainqueurs et leur mode de vie supplanta celui des Andériens. Sous la domination des grands seigneurs Haken, le pays connut enfin la paix. Très dur, mais pas sanguinaire, les nouveaux maîtres ne massacrèrent pas la population d'origine comme le font trop de conquérants. Au contraire, ils accordèrent une place dans leur société aux Andériens, tout en bas de l'échelle pour commencer, mais ça, tu t'en serais douté tout seul. Si je comprends bien, tu affirmes que les Andériens ont bénéficié des lois et des coutumes Haken? Sur beaucoup de plans, oui. Sous le règne des grands seigneurs Haken, l'agriculture et l'élevage se développèrent à pas de géant, et les deux peuples prospérèrent. Les Andériens, qui n'avaient jamais été très nombreux et presque toujours menacés d'extinction, purent croître et se multiplier.
Entendant du chahut tousser comme une perdue, les deux jeunes gens se retournèrent. Richard se baissa, fouilla dans son sac et en sortit un des sachets que Nissel lui avait donné. Il contenait des feuilles séchées de la variété qu'elle lui avait fait mâcher pour qu'il souffre moins d'une blessure. Callan désigna un autre sachet rempli de feuilles broyées censées lutter contre la nausée. Richard le prit et le donna à Kara.
Dis aux hommes d'en mettre dans sa tisane et de laisser infuser un moment. Ça calmera ses maux d'estomac. Précise à Chandalen que c'est un médicament de Nissel. Il l'expliquera au maître de la lame, et ils ne s'inquiéteront pas.
Il posa l'autre sachet dans la paume de la mort de Sith. Ensuite, qu'elle mâche une de ses feuilles. Si elle continue de souffrir, elle pourra en prendre une autre, mais pas avant 2 ou 3 heures.
Kara courut vers le cercle d'hommes qui entourait la Bacata Umana. Même si elle ne l'aurait pas reconnu, y compris sous la torture, la mort de Sith était ravie de porter secours à une personne en détresse et qui lui devait la vie par-dessus le marché.
Si tu me racontais la suite, dit Richard à Callan. Tout s'est bien passé entre les Haken et les Andériens, heureux de se convertir à la civilisation, un monde d'amour et de fraternité?
Il avait de sérieux doutes, mais sa femme ne parut pas capter son ironie.
C'est à peu près ça, oui. Avec l'arrivée des Haken, les conflits tribaux cessèrent, et ils faisaient plus de victimes parmi les Andériens que n'en causa la guerre de conquête. En tout cas, c'est ce qu'affirmaient les sorciers qui m'ont raconté cette histoire.
Et qui semblait la tenir des Haken, ne put s'empêcher de penser Richard.
De plus, les Haken apportèrent aux Andériens un système juridique cohérent, continua Callan. Ne t'y trompe pas, je ne prétends pas qu'il était parfait, voire authentiquement équitable, mais il valait mieux que la loi du plus fort en vigueur jusque-là dans le pays. Et quand ils eurent en somme converti les Andériens à leur mode de vie, les Haken leur apprirent à lire. Sans doute primitifs, mais pas idiots pour autant, les Andériens surent tirer parti de cette situation. On peut même dire qu'ils firent montre d'une remarquable aptitude à s'adapter.
Alors pourquoi ce pays ne s'appelle-t-il pas Terre des Haken ou quelque chose dans ce genre? Si j'ai bien suivi, la majorité de la population est Haken.
J'y arrive, un peu de patience. Selon les sorciers, une fois que les Haken se furent installés en Andérite, leur système juridique s'améliora nettement.
Des envahisseurs qui amènent avec eux la justice? S'étonna Richard.
Les civilisations se développent lentement, Richard. C'est un phénomène très progressif et le mélange des ethnies y joue un rôle prépondérant. Les conquêtes ont souvent des résultats que les envahisseurs eux-mêmes n'attendaient pas. Quand on raisonne sur des siècles, voire des millénaires, il faut tenir compte d'une multitude de paramètres qui
N'empêche, coupa le sorcier. Prendre la terre d'un peuple et le forcer à...
Pense à Dara,
l'interrompit à son tour Callan.
Sous le joug de Darkenral, la torture et le meurtre étaient monnaie courante. Depuis qu'un conquérant, toi, a pris le pouvoir, La justice est de retour dans le pays.
Richard ne pouvait guère contredire Callan sur ce point.
Cependant, il n'était pas à court d'arguments. D'accord, mais c'est un cas très particulier. Je continue de trouver injuste qu'un peuple en envahisse un autre et détruise sa civilisation. Le monde ne peut pas fonctionner systématiquement comme ça. Qui a parlé de « systématiquement » Mais toutes les civilisations ne se valent pas, hélas. Défendrais-tu le droit à l'existence de l'ordre impérial? Là, tu marques un point. Cela dit, il ne me semble pas que les Andériens aient eu à l'époque l'intention de conquérir le monde pour le réduire en esclavage.
Richard, nous ne parlons pas de morale. Tu veux connaître l'histoire d'un pays, et je te la raconte telle qu'on me l'a transmise.
Au cas où tu l'aurais oublié, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Un point de plus, concéda le sorcier.
Cependant, il continuait à estimer injuste, d'instinct sans doute, l'idée qu'une civilisation dotée de sa propre histoire et de ses traditions soit ainsi balayée d'un revers de la main.
Mais comme le soulignait Callan, ce n'était pas vraiment leur propos aujourd'hui.
Pour résumer, la culture andérienne cessa d'exister, conclut-il.
Que disais-tu au sujet du système juridique Haken?
Bien qu'ils fussent des conquérants, les Haken accordaient une grande valeur à la notion d'équité. Pour eux, elle était le fondement de toute société prospère et paisible. Au fil des siècles, les générations successives d'envahisseurs concédèrent de plus en plus de droits aux Andériens. Un jour, comme c'était souhaitable, les deux peuples devinrent de parfaits égaux. Puis la tendance s'inversa, au moins psychologiquement, parce que les Haken, ayant développé une vision du monde très semblable à la nôtre, commencèrent à se sentir coupables de ce que leurs ancêtres avaient infligé aux Andériens.
Callan marqua une courte pause.
Un sentiment très noble, mais peut-être un peu facile quand des siècles ont passé et que le contexte a radicalement changé. Pour comprendre les actes de ceux qui nous ont précédés, ne faut-il pas essayer de se représenter les conditions dans lesquelles ils vivaient ?
Une question dont Richard aurait été incapable de donner la réponse.
Quoi qu'il en soit, ce fut le début de la chute des Haken. N'ayant jamais cessé de rêver de vengeance, les Andériens prirent le pouvoir et les anciens maîtres devinrent les nouveaux esclaves.
Un des chasseurs vint apporter aux jeunes gens deux morceaux de pain de tava chaud fourrés de bouillie. Richard et Callan les acceptèrent avec reconnaissance et l'inquisitrice remercia l'homme d'Adobe dans sa langue.
« Maintenant, fit Richard quand il eut fini de manger, dis-moi comment le système juridique des Haken, en devenant plus équitable, les a conduits à l'esclavage. Désolé, mais quelque chose m'échappe. »
Enveloppé dans une couverture, du chahut, vit-il du coin de l'œil, refusait obstinément de manger. Agenouillé à côté d'elle, Kara s'efforçait de lui faire boire un peu d'infusion.
Ce n'est pas la seule cause de la dégringolade des Haken. Il y en a eu bien d'autres, mais celle-là fut probablement décisive et c'est pour ça que je la mentionne. Pour que des rapports de force s'inversent ainsi dans une société, il faut des centaines d'années. L'essentiel est de savoir que les Andériens, assoiffés de pouvoir comme presque tous les autres peuples, réussirent un jour à s'en emparer.
Les Haken étaient des conquérants, dominateurs par nature. Comment ont-ils basculé soudain dans la soumission?
Il n'y eut pas de soudain, Richard. Quand les Andériens eurent acquis un statut d'égalité, ils s'en servirent pour miner de l'intérieur le pouvoir des Haken. Une fois intégrés à la société, ils y firent leur chemin. Au début, en participant activement à la vie économique, puis en créant des guildes professionnelles qui devinrent de plus en plus puissantes. Quand ils passèrent à la politique, ce fut bien entendu en commençant dans les conseils de petites communes, une étape après l'autre, sans jamais se précipiter. Surtout, ne me comprends pas mal. Les Andériens travaillaient dur, eux aussi. Mais, sans les lois Haken, ils n'en auraient pas tiré les mêmes fruits que leurs anciens maîtres. Très doués pour les affaires, ils devinrent vite une puissance financière incontournable. Les Haken, eux, avaient tendance à vivre sur leurs acquis, comme si leur domination devait durer jusqu'à la fin des temps. Les Andériens prirent aussi une place prépondérante dans l'éducation. Quasiment dès le début, les Haken avaient jugé qu'ils pouvaient se décharger de cette tâche sur les vaincus et se concentrer sur des affaires plus importantes. Les Andériens s'occupèrent d'abord de la formation des enfants, puis ils passèrent à celle des futurs professeurs et en vinrent très vite à déterminer le contenu des cours.
Une tragique erreur des Haken, je parie.
Et tu ne te trompes pas. En plus de la lecture et des mathématiques, les enfants du pays, comme ceux de tous les autres, suivaient des cours d'histoire et acquéraient une culture générale afin de mieux comprendre leur place dans leur patrie. Les Haken voulaient que tous les futurs citoyens apprennent un mode de vie d'où seraient exclus la guerre et la conquête. En insistant sur la brutalité des anciens envahisseurs, aux dépens des nobles andériens, ils espéraient que les professeurs formeraient des individus hautement civilisés, capables de respecter les autres. Au contraire, la culpabilité instillée dans la tête des jeunes mina la cohésion de la société Haken et l'autorité du gouvernement, bien entendu. Puis, survint une catastrophe naturelle qui accéléra les choses. Une sécheresse terrible, longue de plus de 10 ans. Et les Andériens saisirent cette occasion pour chasser les Haken du pouvoir. Toute l'économie reposait sur la production de blé. Les fermes périclitèrent et les paysans furent incapables de délivrer aux exportateurs les récoltes qu'ils leur avaient déjà payées. Pour survivre en ces temps difficiles, les marchands exigèrent le remboursement de ces avances. Dans le processus, beaucoup de fermiers perdirent leurs terres et leurs résidences. Si le gouvernement avait exercé un certain contrôle sur la vie économique, la panique aurait pu être évitée. Mais les dirigeants Haken ne voulaient surtout pas déplaire aux financiers andériens, devenus leurs bailleurs de fonds. Bientôt, la situation s'envenima. Il y eut des émeutes provoquées par la famine et la ville de Fairfield fut même entièrement brûlée. Les Andériens et les Haken cédant à une violence aveugle, le chaos s'installa dans le pays. À cette époque, pas mal de gens s'exilèrent, convaincus que ça ne pouvait pas être pis ailleurs. Les Andériens, souvent très riches, achetèrent de la nourriture à l'étranger. Étant les seuls à en avoir les moyens, ils devinrent rapidement le seul espoir de survie de la nation. Ils achetèrent à bas prix les fermes et les entreprises en faillite. Leur argent, et bien entendu les vivres qu'ils payaient avec, évita que des familles entières meurent de faim. Alors les Andériens jugèrent que l'heure de leur vengeance avait sonné. Dans les rues, les émeutiers accusaient le gouvernement de tous les malheurs qui frappaient le pays. Comme tu t'en doutes, les Andériens jetaient de l'huile sur le feu partout où ils le pouvaient, allant jusqu'à soutenir financièrement les insurgés. Des dirigeants Haken furent plus d'une fois mis à mort en pleine rue, devant des foules que ce spectacle ravissait. La colère de la population se focalisa sur les élites intellectuelles et politiques Haken, et ce phénomène n'épargna pas les Haken du commun, qui étaient souvent de simples ouvriers ou des paysans. Durant les émeutes, toute la classe dirigeante Haken fut impitoyablement éliminée. Et ce que les foules ne parvinrent pas à saccager, les Andériens le sabotèrent en usant de leur puissance financière. En peu de temps, il ne resta rien de l'ancienne prospérité des Haken. Les Andériens prirent alors le pouvoir et ramenèrent l'ordre en distribuant des vivres aux émeutiers affamés, qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre ethnie. Quand la sécheresse cessa, ils régnaient d'une main de fer sur le pays. Et avec les mercenaires qu'ils avaient pris la précaution d'engager, nul n'était plus en mesure de contester leur domination. Depuis un moment, Richard en avait oublié de manger. Incapable d'en croire ses oreilles, il écoutait Callan lui raconter l'histoire la plus invraisemblable qu'il eût jamais entendue. Et pourtant, elle devait être plus ou moins vraie. Les Andériens inversèrent tout. Sous leur joug, le blanc devint le noir, et réciproquement. En vertu du comportement indigne de leurs ancêtres, ils décrétèrent que les Haken n'auraient plus le droit de juger leurs anciens esclaves. En revanche, après des siècles et des siècles de souffrance, les Andériens, annoncèrent-ils, étaient hautement qualifiés pour décider de ce qui était juste ou injuste. Plus personne n'osa mettre en doute les histoires qui dénonçaient la cruauté des antiques conquérants. Afin de prouver qu'ils avaient changé et d'éviter d'être taillés en pièces par les mercenaires, les Haken se soumirent volontairement à l'autorité des Andériens. Privés de pouvoir depuis longtemps, ceux-ci se montrèrent impitoyables. D'abord, on interdit aux Haken l'accès à toute fonction importante. Puis, on leur retira le droit de porter un nom de famille, ou nom d'honneur, selon la terminologie encore en vigueur, sauf s'ils se montraient assez utiles ou valeureux pour obtenir une dérogation. « Ces populations ne s'étaient donc pas mélangées ?» demanda Richard pendant que l'inquisitrice reprenait son souffle. Après si longtemps, elles auraient dû devenir un seul et même peuple. Depuis le début, les Andériens, tous très grands et dotés de cheveux noirs, tenaient les unions avec les Haken, reconnaissables à leur tignasse rousse, pour un crime contre le Créateur. Selon eux, dans sa grande sagesse, il a donné la vie à des êtres différents les uns des autres et qui doivent le rester. Si tu préfères, s'ils acceptent qu'on croise les animaux, il n'est pas question pour eux qu'on fasse de même avec les êtres humains. Il a bien dû y avoir quelques exceptions à cette règle, mais elles ne furent pas nombreuses. Richard finit de manger son morceau de tava, désormais aussi froid que le précédent. « Et aujourd'hui ? » demanda-t-il quand il l'eut avalé.
Comment vont les choses en Andérite?
Puisque seuls les opprimés, autrement dit les Andériens, peuvent être vertueux, ils se sont réservés le droit de régner. Ils affirment que l'oppression Akkhen n'a toujours pas cessé, et un seul regard de travers, selon eux, prouve que la haine des anciens maîtres du pays est toujours aussi vivace. Et bien qu'ils soient aujourd'hui franchement malmenés, les Akkhen ne peuvent pas être d'authentiques opprimés puisqu'ils sont corrompus de naissance. La loi interdit qu'ils apprennent à lire, car se cultiver pourrait les aider à reprendre le pouvoir, au risque qu'ils brutalisent voire massacrent de nouveau les Andériens. Ce qu'ils ne manqueraient pas de faire, selon ces derniers, à cause de leur nature irrémédiablement corrompue. Pour ne pas perdre de vue qu'ils sont des monstres, les Akkhen, toute leur vie, assistent à des réunions de repentance. En Andérite, il est désormais gravé dans le marbre que les Andériens doivent régner sur les Akkhen et les traiter durement. Mais ne perds pas de vue un détail, Richard. Je te répète ce que m'ont enseigné les sorciers. La version des Andériens est radicalement différente. D'après eux, après des siècles de tyrannie, leur noble peuple, grâce à son courage et à sa probité, est parvenu à reprendre le pouvoir à des usurpateurs. Et pour ce que j'en sais, ils ont peut-être raison.
Les poings sur les hanches, Richard n'en croyait toujours pas ses oreilles.
Le conseil des contrées a permis qu'un peuple en réduise un autre en esclavage ?
Demanda-t-il.
Les Akkhen ne se sont pas révoltés. Sans doute parce que leurs professeurs, tous andériens, les avaient convaincus qu'ils ne méritaient pas un meilleur sort. Et le conseil s'est accommodé de ce déni de justice ? N'oublie pas que les contrées étaient une alliance de pays souverains. Les inquisitrices intervenaient pour interdire les dérives trop flagrantes des gouvernements. Par exemple, nous n'avons jamais toléré les assassinats politiques ou les coups d'État. Mais si une population, comme les Akkhen, ne voyait rien hardir à la façon dont fonctionnait son pays, le conseil n'intervenait jamais. Dans l'alliance, la brutalité était proscrite. Pas la bizarrerie, par bonheur.
Les Akkhen se sont soumis parce qu'on les avait conditionnés, s'insurgea Richard.
S'ils avaient su la vérité, ils n'auraient pas marché. Exploiter l'ignorance des gens est une forme de brutalité.
De ton point de vue, sans doute, les Akkhen pensent différemment. Pour eux, leur soumission garantit la paix en Andérite.
Et ils ont le droit de le croire.
On les a éduqués à grands coups de mensonges pour qu'ils gobent des infamies. C'est incontestablement de la brutalité.
N'est-ce pas toi qui viens de dire que les Akkhen n'avaient pas le droit de détruire la civilisation andérienne? Et maintenant, tu prétends que le Conseil aurait dû imposer sa vision des choses à un pays souverain?
Richard eut une grimace de frustration.
Ouais, rien n'était simple, et pourtant... Si tu m'en disais un peu plus sur la façon dont fonctionnait le Conseil à l'époque?
Il y a des siècles, aucun royaume n'était assez fort pour faire respecter une loi unique dans les contrées. Le Conseil a toujours été une assemblée d'hommes et de femmes de bonne volonté, pas une institution coercitive. Et les inquisitrices intervenaient uniquement quand des souverains exerçaient un pouvoir proche de la tyrannie. Si nous avions tenté d'imposer un mode de vie ou une constitution commune, le Conseil aurait explosé et les conflits sanglants se seraient multipliés. Je ne prétends pas que ce système était parfait. Cela dit, il a assuré la paix pendant des millénaires.
« Je ne suis pas un expert en politique, » admit Richard. « Et il semble bien, en effet, que l'Alliance ait longtemps été bénéfique pour les peuples. »
« Sais-tu pourquoi je soutiens les positions que tu as prises et imposées face au Conseil ?»« Eh bien, en partie à cause de ce qui s'est passé dans des pays comme Andérite. » Jusqu'à ton arrivée, avec la puissance de Dara pour peser dans la balance, aucun membre des contrées n'aurait pu faire appliquer une loi commune. Contre un adversaire du calibre de Jagang, l'alliance telle qu'elle existait n'aurait eu aucune chance.
Richard avait du mal à imaginer combien Kalan, la mère inquisitrice, avait dû souffrir de le voir détruire une institution qu'elle avait passé sa vie à défendre.
Darkenral était à l'origine de la série d'événements qui avaient ébranlé le monde. Dans le chaos, Kalan avait su faire preuve de discernement et saisir au vol les rares occasions qui s'offraient à elle.
« Merci de ton cours d'histoire, » dit le sorcier. « Maintenant, j'en sais davantage sur le passé d'Andérite. Si je connaissais celui de Dara, je le trouverais sûrement plus sordide encore. Pourtant, si étrange que ça me paraisse, les Daran luttent aujourd'hui avec moi au nom de la justice et de la liberté, mais, au fond, je ne devrais pas m'en étonner. Personne n'est responsable des crimes de ses ancêtres.
Et je bous de colère chaque fois qu'on tente de me mettre sur le dos les atrocités de mon père.
De ton exposé, j'en déduis que les Andériens ne sont pas du genre à se soumettre à un tyran comme Jagang.
Tu crois que nous pourrions les convaincre de s'allier à nous ?
Kalan réfléchit un moment à la question.
Richard en fut un peu déçu car il avait espéré qu'elle répondrait spontanément par l'affirmative.
Le pays est dirigé par le pontife, qui est également la plus haute autorité religieuse. Comme tu as dû le comprendre, les Andériens sont très dévots. Le pontife est nommé à vie, essentiellement par les directeurs du bureau de l'harmonie culturelle. Ces hommes choisissent le nouveau chef en fonction de ses qualités morales, en théorie en tout cas. Un peu comme le premier sorcier quand il nomme un sourcier.
Donc c'est le pontife que nous devrons convaincre.
En partie, oui. Mais il ne règne pas au sens séculier de ce verbe. C'est une figure de proue vénérée par son peuple qui le tient pour l'émissaire du Créateur en ce monde, une sorte de saint, si tu veux.
De nos jours, les Andériens représentent à peine 20% de la population, mais les Haken aussi vénèrent le pontife. Il est assez puissant pour imposer ses choix au gouvernement. Pourtant, le plus souvent, il se contente d'approuver ceux des véritables dirigeants. En fait, le maître d'Andérite est le ministre de la civilisation. C'est lui qui détermine la politique du pays. Aujourd'hui, un certain Bertrand Chanebourg occupe ce poste. C'est au ministère de la Civilisation, près de Fairfield, que sera prise la décision finale. Les diplomates auxquels j'ai parlé en Aïdindril transmettront nos propositions à Bertrand Chanebourg. Quelle que soit sa véritable histoire, Andérite est aujourd'hui une puissance qui compte. Et les Andériens n'ont plus aucun rapport avec leurs ancêtres primitifs. Ce sont de riches marchands et des gouvernants avisés qui contrôlent parfaitement leur pays.
Richard sonda la plaine pour la énième fois. Depuis qu'il avait eu la chair de poule en sentant approcher le carillon venu tuer du chahut, il était sur ses gardes au cas où une telle alerte se reproduirait.
Du coin de l'œil, il vit que Kara faisait manger de la bouillie à la Bakata Omana. Avec l'enfant qu'elle portait, la femme esprit devait rentrer chez elle, pas abattre la campagne.
« Les Andériens sont des marchands, »
continua Kalan,
« mais pas du genre mou, obèse et paresseux. »
À part dans l'armée, où il existe un semblant d'égalité, eux seuls ont le droit de porter des armes, et ils savent s'en servir.
Même si tu n'as plus une très bonne opinion d'eux, ce ne sont pas des imbéciles, et les vaincre n'aura rien d'un jeu d'enfant, y compris pour l'ordre impérial.
Pensif, Richard continua à sonder la plaine.
« À Ibinitia et à Renwald, » dit-il, « Jagang a montré ce qu'il fait à ceux qui lui résistent.
Si Andérite ne s'allie pas à nous, les Andériens connaîtront la défaite face à une nouvelle horde de conquérants,
et ceux-là n'ont aucun sens de la justice.